Гриба, Гуся, Леснух и Краб, Гуйстахана. Я погадал на блюде судья, а свиньё скулы океана. На чешуе жестянной рыбы прошёл я долгий путь. А вы повсюду играете на гриба, на сенса подошёл.
Profonde des pensées, couverte de lianes par les faiseurs de livres, l'habile serrurier des âmes humaines, le tailleur de pierre du pavé des cœurs. Sur l'eau je ne coule pas, dans le feu je ne brûle pas, esprit inflexible de l'éternelle révolte, je suis venu me vêtir de vos muscles, préparer les colonnes de vos corps, entasser rabots établis et forges, je vais grimper dessus. Ceci est la dernière mise dans la maison de jeu du monde. Je ne suis ni d'une classe, ni d'une nation, ni d'une tribu.
Bonsoir, vous venez d'entendre Gérard Mémon et Pierre Delorme qui disaient des textes de Vladimir Maïakovski. Auparavant, vous l'aviez entendu lui-même, Vladimir Maïakovski, en russe, dans un court extrait d'un de ses poèmes qu'il déclamait. Ces deux illustrations pour ouvrir notre émission de ce soir, la deuxième consacrée à Elsa Triolet dans la période de sa jeunesse, avec nous donc dans les studios. Pour cette série d'émissions et pour celle-là bien sûr, Maria Berlioz et Jean Knauf de l'association Salaet, c'est-à-dire Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet. Donc ce soir, nous allons évoquer plus particulièrement, enfin, Elsa Triolet bien sûr, mais dans ses rapports et relations avec Maïakovski. Je vous donne la parole.
Bonsoir à vous.
Bien, bonsoir à tous. Alors effectivement, ce soir, nous allons dresser un tableau de l'Europe politique, parce que les événements de ce début de XXe siècle sont tout de même extrêmement importants en Russie. Et puis également, on va vous raconter deux belles histoires d'amour. La première, ce sera celle d'Elsa avec Maïakovski, et la deuxième, on sortira pas de la famille, ce sera celle de Lily, la sœur d'Elsa, avec le même Mayakovsky. Alors, si on fait comme dans une pièce de théâtre, il y a des personnages. Donc les différents personnages qu'on va trouver, ça va être Elsa, bien sûr, Lily Brick, puisque lors de la dernière émission, on vous a dit que Lily, qui est plus âgée qu'Elsa, a épousé un grand linguiste qui s'appelle Ossip Brick. Évidemment, Mayakovsky, dont vous venez d'entendre la voix. On reviendra un petit peu plus tard sur cet extrait pour préciser justement ce que racontait Mayakovsky dans l'extrait. C'est cette manière très particulière qu'il avait d'aborder la poésie. Au niveau des dates, pour qu'on se repère bien, on va commencer en 1911. Alors Maria, tout à l'heure, nous expliquera pourquoi 1911. Parce qu'il s'est passé un événement important. Puis évidemment, en 1917, là, ça se passe d'explication. Je pense que les auditeurs de Radio Canu savent tous ce qu'évoque cette date de 1917, qui est la date de la révolution soviétique. Alors, je voudrais préciser, peut-être historiquement, parce qu'on s'éloigne quand même de... On s'éloigne des choses, et puis il y a un certain nombre d'événements qui pour nous font partie de la banalité. Il y a tout de même des événements qui relèvent de la révolution industrielle, entre autres, et qui sont liés à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et qui vont avoir une répercussion extrêmement importante sur la vie quotidienne des gens. Donc ça, c'est un élément qui va être à prendre en compte pour la suite de ce que l'on va dire. Et puis le deuxième événement, c'est évidemment la révolution politique, puisque on ne va pas séparer révolution industrielle. Je dis ça parce que c'est quand même pas évident aujourd'hui. Hein. Ce qui est technologie, c'est passé dans la société de consommation, etc. On fait pas le lien avec la politique, pas toujours. Et alors que là, il y a un espoir de révolution, on est dans une Russie tsariste, et dès 1905, il y a une première révolution qui va ébranler le régime, avant évidemment la grande révolution de 1917. Alors, le personnage de Mayakovsky, on verra un petit peu plus tard des éléments de biographie pour mieux le situer, mais qu'est-ce qu'il a d'intéressant et de vraiment très original, c'est que pour lui, je dirais que Mayakovsky, c'est pas un artiste engagé au sens où on l'entend. Hein. Un artiste engagé, ça peut être quelqu'un qui fait une œuvre très bourgeoise et très commerciale par ailleurs, et puis qui d'un autre côté s'engage parce qu'il va soutenir, par exemple, un candidat d'extrême gauche ou Pour Mayakovsky, c'est pas ça du tout. L'art et la révolution ne font qu'un. Et je vais vous lire un extrait de ce qu'il a écrit. « La révolution et les vers se sont d'une certaine manière confondus dans ma tête. » C'est-à-dire que Mayakovsky écrit pour faire la révolution. Hein, il fait pas une œuvre qui se vend bien chez les éditeurs, mais pour lui, c'est une seule et même chose. Et ça, je crois que c'est important parce que tous ces écrivains, et on leur trouvera aussi... plus tard, chez Elsa Triolet, au moment, je pense, par exemple, de l'époque de la Résistance, ou au moment où elle mène la bataille du livre, qui a été si importante dans les années 50, pour eux, il n'y a pas de séparation. L'art et la révolution, ça ne fait qu'un. L'art n'est pas dans le circuit de la consommation, etc. Et donc, il est évident que pour ces artistes, parce qu'il y a un bouillonnement, hein, si on élargit un petit peu au-delà de la Russie, on est quand même dans la période des avant-gardes. Hein. Pensez la France, par exemple, le mouvement cubiste, Picasso, les demoiselles d'Avignon, c'est 1907. Donc on est vraiment dans ce bouillonnement intellectuel d'artistes, de créateurs qui, par-delà les apports de la révolution industriels vont chercher un autre mode de vie, vont chercher à vivre autrement et à transformer également les structures de la société que par commodité on va appeler bourgeoise. Voilà. Alors ça c'est un petit peu pour situer le décor. Et on va en venir à 1911, puisqu'en 1911, donc Mayakovsky va rencontrer Elsa, qui n'est pas encore triolet, hein, qui est donc Elsa Kagan, dont on a parlé, la jeune Elsa. Voilà, et c'est Maria qui va nous raconter cette belle histoire.
C'est toujours beau de raconter une histoire d'une jeune femme. Alors, Elsa a 15 ans en 1911. Mayakovsky, bien sûr, est un peu plus vieux qu'elle. Et la rencontre a lieu chez des amis à Elsa. Et lorsqu'elle le voit, imaginez, c'est un jeune homme grand, beau, original par rapport aux autres, et il s'impose. Pour Elsa, c'est un éblouissement. Elle est d'ailleurs tellement troublée, elle tirait sur son collier de perles, et bien sûr, tout se répand. Et imaginez la scène, elle est sous la table pour ramasser ses perles, et là, évidemment, Vladimir Mayakovsky, qui est un coquin quand même, est-elle là aussi, tient ses mains, et leurs doigts se croisent, oui. Ce sera un grand amour de jeunesse pour Elsa Triolet. Et pendant toute sa vie, elle sera fidèle à cette mémoire, à ce qu'elle ressentira. Pour elle, c'est vraiment une empreinte qui aura duré toujours. D'ailleurs, quelques années plus tard, on sera en 1957, elle va évoquer dans un de ses livres cette première rencontre. Et voici ce qu'elle écrivait à l'époque. « Il m'avait paru gigantesque, incompréhensible et insolent. J'avais 15 ans et j'en ai eu assez peur. C'est quelque temps après qu'il est apparu chez moi. Il s'était fait confectionner par sa mère, pauvre femme, une blouse jaune citron qui lui tombait à mi-hanche et qu'il portait sans ceinture et avec une grande cravate lavalière noire. Un chapeau haut de forme, un pardessus élégant et une canne complétaient l'équipement. Et c'est ainsi habillé qu'il se présenta chez moi, chez mes braves bourgeois de parents. Je ne me rappelle pas cette première visite, sauf pour l'effarement de la bonne. » Finalement, quelque temps plus tard, Elsa a fini par imposer cet étrange ami à sa famille. Elle écrit encore. Il venait presque tous les jours, était avec ma mère d'une politesse désarmante, très talon rouge, ne disant que le strict nécessaire en présence de mon père, et arrivait presque à faire oublier sa blouse jaune. Il est évident qu'entre eux va se lier un lien amoureux, et c'est toujours Elsa qui en parlera. Mayakovsky me faisait la cour, parlait fort peu et marmonnait sans cesse quelque chose avec de brusques éclats de voix. Peut-être pour vérifier un verre. Je ne m'intéressais guère à ce travail intérieur qui se passait à côté de moi. Et c'est à peine si je m'apercevais que Mayakovsky était un poète. Jean, tu vas peut-être nous parler maintenant oui. Qui était Mayakovsky.
On va préciser un petit peu la biographie de Mayakovsky, parce qu'on on a évoqué le cadre général donc de l'époque dans laquelle ils ont vécu, et puis cette rencontre très romanesque avec Elsa. Alors, Mayakovsky est né le 19 juillet 1893, c'est-à-dire qu'il a 3 ans de plus qu'Elsa, puisque, souvenez-vous, elle était née en 1896. Il vient d'un milieu modeste, rural, puisque son père est garde forestier. Et le nom de Mayakovsky aurait eu une origine intéressante à signaler, puisqu'en russe, Mayak signifie phare. Et effectivement, Mayakovsky va être le phare de la révolution soviétique entre 1917 et 1930, le 14 avril 1930, puisque Maïakovski s'est suicidé le 14 avril 1930. Dès 1905, donc calculé en 1905, il a 12 ans, dès 1905, Maïakovski participe à la première révolution, à 12 ans. Et sans doute parmi nos auditeurs, nombreux sont ceux qui ont vu le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Il y a cette scène absolument fabuleuse qui montre la violence de la répression en 1905. Cette scène où sur le grand escalier d'Odessa, on voit cette mère avec son landau et son enfant à l'intérieur du landau. La mère est touchée, blessée, elle s'effondre et on voit le landau qui descend tous les escaliers. Et la répression est terrible. En 1906, un an plus tard, le père de Maïakovski meurt, donc la famille quitte la Géorgie et vient s'installer à Moscou. C'est important, Moscou étant la capitale. Et Maïakovski, dès l'âge de 13 ans, milite, il adhère au parti bolchevique, il est pétri d'idées socialistes. On se rend mal compte aujourd'hui combien, au début du 19e siècle, l'œuvre non seulement de Marx, Engels, mais l'œuvre de, par exemple, des anarchistes, l'œuvre aussi de ceux qu'on appellera les socialistes utopiques, Proudhon, se répand un petit peu partout en Europe. Le socialisme, c'est vraiment l'avenir, quoi. Hein, c'est l'avenir du monde. Bon. Et donc Maïakovski est pétri de ces idées. Et d'ailleurs, j'ai relevé dans sa biographie que en 1908-1909, il est emprisonné, par exemple. Je vous donne un exemple. Il est quand même emprisonné du 2 juillet 1909 au 9 janvier 1910. Ça fait quand même six mois d'emprisonnement. Il abandonne dans ces conditions-là. C'est quand même difficile d'avoir une scolarité normale. Donc il abandonne rapidement l'école. Mais j'ai trouvé un texte dans lequel il écrit ceci. « Je suis un inculte, toute la vie rédiger des tracts, exposer des idées empruntées à des livres corrects, mais non pas imaginées par moi. N'est-ce pas la révolution elle-même qui exige de passer par une école sérieuse? Je veux faire un art socialiste. » Hein, on retrouve ce militantisme jusque dans l'activité artistique. Et donc Maïakovski va s'inscrire à l'école de peinture, d'architecture et de sculpture.
Et là, il va rencontrer certainement d'autres futurs artistes.
Voilà. Et là, il va rencontrer, alors en particulier, un artiste qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle David Bourliouk. David Bourliouk, c'est celui qui va introduire en Russie, on n'est pas encore en Union soviétique, c'est en 1911, donc 1911, c'est une année importante pour lui, puisqu'il rencontre Elsa, mais il rencontre également Bourliouk, qui va introduire le mouvement futuriste en Russie. Et là, il faut qu'on vous parle du mouvement futuriste, parce que c'est un mouvement quand même qui est important.
Cessez de n'avoir Dieu que pour les prophètes. Faites sauter tout ce qu'on respectait et qu'on respecte. Et cette terre promise se révélera toute proche. Vous attendez que quelqu'un d'autre vous en parle, mais elle est ici même, à portée de vos mains. Où sont vos mains? Qu'en faites-vous? Vous formez des croix avec vos bras inutiles. Vous vous serrez comme des pauvres alors que vous êtes riches. Regardez toute cette richesse autour de vous. Comment le vent ose-t-il jouer avec cette arche? À bas le joug impudent de la nature. Vous vivrez au chaud et dans la lumière, en faisant mouvoir l'électricité par les vagues. Et si vous vous retrouvez au fond, ce n'est pas terrible. Le fond de la mer est net comme une prairie. le charbon, notre pain quotidien y pousse. Le vent peut bien hurler tous ces déluges, le flanc des arches récipients craquer, la droite, la gauche, voilà les deux choses qui nous sauveront. J'ai terminé, je vous rends la parole, je redeviens muet.
Oui, donc on va parler du futurisme, qui est un mouvement extrêmement important parce que il s'est répandu dans toute l'Europe. Il fait partie de ces nombreux mouvements d'avant-garde. Hein, on a parlé, la peinture. Si on prend la peinture, elle commence à se révolutionner avec l'impressionnisme. Il y a le cubisme, le fauvisme. Enfin, les mouvements. Les mouvements artistiques sont pléthores. Le futurisme, il a ceci d'intéressant, c'est que il va essayer de constituer une réponse à la question du progrès scientifique. Je vais prendre deux exemples. La peinture, dans sa tradition depuis la Renaissance, l'invention de la perspective, la peinture, elle est figurative. Hein, on va peindre. Il y a l'art du portrait, il y a l'art du paysage, la nature morte. Or, au cours du XIXe siècle, une invention capitale, la photographie, dont la question se pose, est-ce que l'on peut toujours peindre après l'invention de la photographie? Deuxième exemple, l'architecture. L'architecture, traditionnellement, depuis des millénaires, l'architecture, elle a un matériau privilégié, c'est la pierre. La révolution industrielle, et en France on est bien placé pour l'illustrer, hein, c'est un des monuments les plus visités au monde, la Tour Eiffel. La révolution industrielle va substituer à la pierre le fer. Alors la question qui se pose, elle peut paraître théorique, mais pour les artistes, je dirais qu'elle est vitale, elle n'est pas théorique. C'est est-ce que l'art est mort finalement? Est-ce qu'on peut toujours continuer de peindre après l'invention de la photographie? D'ailleurs, les impressionnistes, pensez à Monet, Impression, Soleil, Levant, hein, ça va être justement d'introduire d'autres éléments, hein, la lumière, voilà. Et les futuristes vont essayer d'apporter une réponse à travers un certain nombre de valeurs qui sont issues de la société industrielle, comme par exemple la vitesse, l'espace, etc. Hein? Alors, il faut également signaler que fin du 19e, on a un certain nombre d'inventions considérables, l'automobile, l'aviation, tout un tas d'inventions qui modifient justement le rapport que nous avons au temps et à l'espace. Alors les futuristes vont essayer d'apporter des réponses. Et le mouvement, où est-ce qu'il naît? Eh bien, il naît en Italie. Pourquoi l'Italie? Il y a une explication finalement assez simple à ça. L'unification italienne, elle date de 1870. Une nouvelle capitale, c'est Rome. Et l'Italie, elle a à la fois un grand privilège, parce que le nord de l'Italie est industrialisé, ça fait partie des pays qui sont en voie d'industrialisation, mais en même temps, elle a un lourd handicap, c'est que l'Italie, c'est le passé. Hein? Quand on va à Rome, Rome, c'est quand même entre autres une ville du passé. Enfin, aujourd'hui, le passé et le présent coexistent très bien, mais à l'époque, c'est quand même le passé, comme la Grèce, par exemple, est le symbole du passé. Donc, il y a un théoricien italien, Marinetti, qui va écrire le manifeste futuriste. Et ce manifeste futuriste, il va paraître dans le Figaro du 20 février 1909. Donc le futurisme naît officiellement le 20 février 1909. Et il y a un certain nombre de propositions, c'est un peu lapidaire, hein, par lesquelles les futuristes vont proclamer leur volonté justement de révolutionner l'art à leur manière. Alors, il y a 11 propositions. On va vous lire les 11 avec Maria en alternant.
Ceci va vous servir un petit peu pour avoir une idée de l'esprit de l'époque. Alors, nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité.
Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace et la révolte.
La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing.
Nous déclarons que la beauté du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse.
Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant.
Il faut que le poète se dépense avec chaleur, éclat et prodigalité pour augmenter la ferveur enthousiaste des éléments primordiaux.
Il n'y a plus de beauté que dans la lutte.
Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles.
Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde.
Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et militaires.
Nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte.
Alors on voit bien les limites, hein, les limites.
Les opportunités, c'était les opportunités utilitaires dans le texte. T'as dit militaire.
Oui. C'est vrai.
Bon,
c'est
oui, oui, utilitaire. Oui. J'ai dit militaire.
Oui. Ah, bon, oui.
Excuse-moi. Oui. Les lâchetés opportunistes et utilitaires. Oui, oui, d'accord. Alors, on voit bien un certain nombre de thèmes qui vont d'ailleurs expliquer le devenir du mouvement futuriste italien, puisque Marinetti, à l'accession de Mussolini en 1922 au pouvoir, les futuristes italiens vont se rallier à Mussolini et donc au régime fasciste. Mais par rapport à la révolution ouvrière, on va voir quelqu'un comme Antonio Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien, dans un premier temps, se rallier aux futuristes. Parce que la question qui est posée, est-ce qu'on peut faire la révolution d'une société en gardant les représentations de l'ancienne société? Et d'ailleurs, chez Gramsci, si on passe sur le terrain un petit peu de la politique et de la philosophie, chez Gramsci, il y a un concept extrêmement important qui est celui d'hégémonie culturelle. Avoir le pouvoir, c'est pas simplement avoir un pouvoir économique et politique, c'est aussi avoir le pouvoir sur les esprits. Là, on voit bien aujourd'hui, par exemple, à travers les médias, combien le pouvoir de l'argent, par exemple, va amener un certain nombre, je sais pas, d'émissions de télévision ou un certain type de spectacles divers. Donc, dans un premier temps, le jeune parti communiste italien est intéressé par le mouvement futuriste. Et puis, ensuite, alors, c'est effectivement en 1922, là, je déborde un peu du cadre qu'on avait fixé 1911-1917, mais on va revenir à la Russie. Dans un deuxième temps, c'est d'ailleurs une réponse que Gramsci fait à Trotsky, parce que Trotsky, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question de la culture et de l'art, Trotsky, justement, questionne Gramsci sur le futurisme et sur la nature du futurisme. Et Gramsci, là, lui fait une réponse qui est qui marque la coupure du Parti communiste italien avec les futuristes, puisqu'il dit qu'ils sont tous réactionnaires et que les ouvriers qui avaient vu dans le futurisme des éléments de lutte contre la vieille culture académique, en fait, s'aperçoivent que il y a absolument pas d'espoir à voir là-dedans. Alors on revient donc au point de départ, c'était 1909, et en Russie, donc le mouvement futuriste va apparaître à partir de 1911, et Mayakovsky va être un des artistes importants dans le mouvement futuriste. Et en décembre 1912, les futuristes russes publient un manifeste qui s'appelle « La gifle au goût public », qui marque donc le début du futurisme russe. Et donc là, il préfère la gifle au coup de poing.
Coup de poing.
Et Maria va nous lire quelques phrases de ce...
Il n'y a que nous qui sommes le visage de notre temps. La trompe du temps brame à travers nous par le chef-d'œuvre de la parole. Ce qui fut oublié est trop étroit. L'Académie et Pouchkine sont plus incompréhensibles que des hiéroglyphes. Abba Pouchkine, Abba Dostoïevski, Abba Tolstoï et leurs semblables du bateau à vapeur du présent.
Mais cette culture futuriste, elle est tout de même présente dans la Révolution. J'aimerais citer cette phrase de Lénine, bon, qui est une boutade, bien sûr. Lénine disant « Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité ». Alors, bon, les soviets, c'est évident. Mais pourquoi l'électricité ? Ben, c'est que après la prise du palais d'hiver, en 1917, ben, il a fallu quand même le téléphone qui a permis justement de relier entre les révolutionnaires et donc justement de coordonner les actions, un petit peu ce qu'on a vu par exemple quand on a parlé récemment voilà de la révolution tunisienne, voilà des choses comme ça.
C'est de vous que je parle quand j'écris tout ça, pauvre rat. J'ai regretté de n'avoir pas de sein. Je vous aurais nourri comme une bonne nounou. Maintenant, je suis un peu desséché. Mais en revanche, qui et où aurait pu ouvrir aux pensées un tel espace inhumain ? C'est moi qui ai planté mon doigt dans le ciel et montré que c'était lui le voleur. Quelquefois, il me semble que je suis comme un coq hollandais ou bien le roi de Psychov. Mais d'autres fois, plus que tout, me plaît mon propre nom. Vladimir Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky.
Mayakovsky.
C'est donc dans ce contexte que s'effectue la rencontre entre la jeune Elsa et Mayakovsky. Alors, on disait déjà précédemment, Elsa ne s'est pas rendu compte du talent de Mayakovsky. Et pourtant...
Alors, un soir d'été à la campagne, c'est toujours une atmosphère très tchékovienne, hein, je dirais, près de la datcha de vacances de ses parents, elle est tout à coup saisie par la force des vers de Mayakovsky.
Nous marchions côte à côte dans le noir, dans la large allée non éclairée qu'était cette rue campagnarde, entre deux rangées de villas derrière leurs palissades. Mayakovsky, absorbé, vague, dit brusquement à haute voix des vers. Je m'arrêtais stupéfaite. Je venais de me rendre compte que Mayakovsky écrivait des vers et que ces vers, je les aimais passionnément.
« Ah ah !» dit Mayakovsky avec un triomphe dédaigneux. « Ça te plaît ?»
Et tard, dans la nuit, devant la palissade d'une villa quelconque, Mayakovsky m'avait dit des vers. J'étais folle d'émotion, de la découverte de quelque chose que j'avais eu à côté de moi depuis si longtemps et que j'ignorais si totalement. J'en voulais encore et encore.
Alors à partir de ce moment, c'est en quelque sorte un deuxième coup de foudre. Après la rencontre avec le personnage Mayakovsky, c'est donc la rencontre avec le poète, l'immense poète qu'il est. Et il y a une chose qui est importante, on a entendu en début d'émission, dans le générique, on a entendu la voix de Mayakovsky, et on est dans cette époque révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, où il y a une forme artistique dominante qui est l'agit-prop, c'est-à-dire que les artistes descendent dans la rue pour agiter le peuple. Hein, et Mayakovsky... pratique sa poésie sur les places publiques, dans les cafés, etc. Et l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure, j'ai réussi à me le faire traduire, parce qu'il semblerait qu'il ne soit pas du tout évident, parce que l'enregistrement n'est pas très, très bon. C'est Mayakovsky qui arrive donc dans un café, et il est mis au défi de décrire sur la nappe des vers, et Mayakovsky s'exécute, il écrit un poème et il le déclame avec cette voix extraordinaire. Et dans l'œuvre d'Elsa, plus tard, on va retrouver cette obsession de la voix. Et je renvoie à un roman de Mayakovsky, d'Elsa, Elsa Triolet donc, qui sera écrit à la fin de la guerre, qui s'intitule « Personne ne m'aime », dans lequel on retrouve un personnage, Génie, qui est en fait la transposition de Mayakovsky. Et puis comme ensuite l'avenue du stalinisme fera que Mayakovsky sera plus ou moins bon récupéré Staline après avoir condamné bon tous ces poètes et artistes d'avant-garde essayer de récupérer Mayakovsky. Elsa va beaucoup s'intéresser au destin des grands créateurs. Et il y a un roman que personnellement j'aime beaucoup qui s'appelle Le Grand Jamais. Et dans Le Grand Jamais, c'est le destin d'un historien qui meurt, qui est un historien qui a eu une très grande influence, qui a des étudiants, et ces étudiants vont le trahir. Et cette question de l'artiste, de l'héritage de l'artiste et du discours que l'on tient sur l'artiste, ça va être obsessionnel chez Elsa Triolet. Et alors, si on va du côté d'Aragon, évidemment, la relation Aragon-Mayakovsky était beaucoup plus brève. Hein. On va trouver dans un très, très grand roman d'Aragon, un roman de la maturité qui s'intitule « La mise à mort », dans laquelle Aragon revient sur ce passé tragique qui était celui du XXe siècle et de son existence. La protagoniste, la personnage principale, la femme qu'aime le personnage, qui s'appelle Antoine, c'est compliqué d'ailleurs, Antoine sans H, Antoine avec un H, enfin il y a tout un dédoublement de personnalité chez Aragon. Fougère est une des plus grandes cantatrices du siècle. Et la voix de Maïakovski va vraiment hanter les romans d'Elsa Triolet et un peu également ceux d'Aragon.
Alors, Jean, tu disais tout à l'heure que Maïakovski avait besoin de, et on le défiait d'ailleurs, de lire ou de clamer ses vers à la foule dans les cafés. Eh bien, c'est vrai que c'était un génie, hein, on le sait depuis longtemps, mais imaginez, aujourd'hui, on a le slam qui peut se produire comme ça, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Maïakovski, ben, c'était il y a un siècle. Alors, plus tard, revenons à Elsa, quand elle s'occupera de la rubrique dramatique dans les lettres françaises, elle va écrire à ce propos « Je n'ai jamais vu qu'un seul homme. Je n'ai jamais vu que Maïakovski posséder une salle, jouer avec, la taquiner, l'agacer comme un taureau et toujours faire passer par où il voulait qu'elle passât, en laissant sur le carreau quelques spectateurs qui s'avisaient de le contredire. Et ce qu'il mettait knock-out avec une insolence, une désinvolture et un humour grandiose. »
Dorez-vous au soleil, fleurs et herbes. Printanisez-vous toutes les forces de la vie. Je ne veux qu'un seul poison, boire des mots, encore et toujours. Toi qui m'as dévalisé le cœur, le privant de tout, reçois mon offrande, ami. Peut-être je n'inventerai plus rien. Peignez en fait la date d'aujourd'hui. Opère magie égale à la crucifixion. Voyez, je suis fixé au papier par les clous des mots. Soleil, fleurs et herbes. Printanisez-vous toutes les forces de la vie. Je ne veux qu'un seul poison. Boire des mots.
Et nous voilà arrivés en 1915, et se produit un événement qui va changer le cours des choses.
Alors, Elsa vit avec sa mère à Moscou, mais elle va faire le voyage jusqu'à Petrograd, où vivent Lily, avec son mari bien sûr, aussi Brick, et également Maïakovski. Elsa va les présenter, et ça va être un grand, grand moment. Ça se passe le 15 juillet 1915.
Une date des plus joyeuses.
Écrit Maïakovski, évidemment. Et il tombe amoureux fou de Lily. Il leur lit le nuage en pantalon. Et écoutez, comme si on y était.
Votre pensée qui rêvasse sur un cerveau ramolli, tel un laquais adipeux vautré sur une banquette graisseuse, je l'exciterai par la loque ensanglantée du cœur, me moquant tout mon sou insolente et caustique. Je n'ai pas un seul cheveu gris dans l'âme, aucune tendresse sénile. Le monde retentit quand tonnerre ma voix, et j'avance, beau de mes 22 ans, délicat, Vous couchez l'amour sur les violons, les rustres le couchent sur les timbales. Mais pouvez-vous, comme moi, retourner votre peau pour n'être plus de haut en bas que lèvres? Apprenez ceci, digne employé de la Ligue des Anges, tout en baptiste de salon. Et vous qui calmement feuilletez les lèvres comme une cuisinière un livre de recettes. Si vous voulez, je serai tout de viande déchaînée, ou bien changeant de ton comme le ciel si ça vous chante. Je serai tendre, irréprochablement, non plus un homme, mais un nuage en pantalon.
Après avoir écouté ces vers, Lily et son mari Ossip sont éblouis. Aussitôt Ossip, qui est critique littéraire et théoricien des nouvelles formes du langage, a flairé le génie. Il lui arrache le carnet à Maïakovski. Mais Maïakovski lui reprend et il écrit en exergue
« À Lily Yurevna Brick ».
C'est le début d'un amour fou. On disait tout à l'heure qu'il y avait des événements comme ça. Et là, ça va être un amour qui est tellement fort, une passion, que même la mort et les drames ne parviendront pas à défaire ni pour l'un ni pour l'autre.
Maïakovski vient effectivement de rencontrer la femme de sa vie.
Alors, cette rencontre relève à la fois du merveilleux, du fantastique, mais Vladimir Maïakovski est doublement gagnant. Hein, il a d'une part la femme de sa vie, et d'autre part, il trouve chez Ossip un théoricien passionné de l'art de gauche. Et aussi, ce qui est important à ce moment-là, c'est que Ossip a la culture que Maïakovski n'a pas, et Maïakovski a le génie qu'Ossip n'a pas. Un poème écrit en 1915 témoigne de cette relation tourmentée, parce qu'au fond, ils vivent quand même à trois. Hein, faut pas oublier ça. Et Maïakovski va écrire un poème qui s'appelle « La flûte de vertèbres ». Il va en exprimer ses sentiments forts, mais aussi son inquiétude de tout ça. Mais bien sûr, c'est l'amour qui s'impose, comme on le disait au début de cette histoire. Jean, tu vas nous lire ce poème ?
Deux strophes, oui. « À toutes celles qui séduisent ou ont séduit, icône préservée dans la grotte de l'âme, comme une coupe de vin pour le toast à table, je lève mon crâne plein de poèmes. De plus en plus souvent, je me demande si je ne ferais pas mieux de poser d'une balle un point final à ma vie. Aujourd'hui, je donne à tout hasard mon concert d'adieu. »
Alors, nous le savons, Maïakovski, depuis très jeune, et puis les Brick, adhèrent immédiatement à la Révolution. Et au lieu d'habiter Petrograd, finalement, j'ai l'impression qu'ils vont se sentir beaucoup, beaucoup plus utiles à Moscou. Et donc, ils vivent à Troyes, dans une chambre qui est glaciale, évidemment, vous imaginez, en plein hiver, en Russie. Et Maïakovski va mettre en vers cet épisode.
Alors voilà, 12 archives carrées de logis, à 4 là-dedans. Lily, Ossia et moi, et le chien Chetnik. 4 glaçons s'enroulent, s'endorment. Des gens s'amènent, ils vont, ils viennent, ils nous secouent. Oxyde de carbone. J'ai beaucoup rôdé par les pays chauds. Mais c'est seulement dans cet hiver-là que j'ai su ce que c'est la bonne chaleur, des amours, des amitiés, d'une famille. Ce n'est que couché dans ce nu verglas, claquant des dents ensemble, qu'on sait. Il ne faut jamais aux gens pleurer, couverture ou caresse.
Alors Elsa, on le dit toujours, c'est une adolescente, vit très douloureusement cette situation. Imaginez l'amour qu'elle venait de sentir si vivement. Maïakovski vit quand même un très grand amour avec sa sœur. C'est pas toujours facile. Et c'est une période pour elle de souffrance et de désarroi. Alors, dans des textes, elle va s'adresser à lui. J'ai tellement de regrets que maintenant vous n'ayez plus besoin de moi. Je ne pourrai plus parler avec vous comme avant. Vous me troublez terriblement. Si vous saviez comme c'est dommage, je me suis tellement attachée à vous et tout d'un coup, un étranger. Bon, soit.
Alors la passion de Maïakovski et de Lily va croître au fil des mois et des années. Et Elsa va finir par fuir Petrograd parce que elle ne veut pas être le témoin de leur idylle. Mais elle sera toujours poursuivie par cette relation si forte. Et 30 ans plus tard, en 1944, on va retrouver le personnage de Maïakovski dans une nouvelle. C'est d'ailleurs l'ouvrage qui a reçu le prix
Goncourt. Oui.
Le premier accro coûte 200 francs. Et une nouvelle qui s'intitule « Cahier enterré sous un pêcher ». Et voilà ce qu'écrit... Alors, c'est une fiction, hein, en réel. C'est donc pas... Mais voilà ce qu'écrit donc la narratrice à propos de Vladimir.
J'aimais Vladimir, avec les forces fraîches de l'enfance qui rendent possible la concentration totale sur un seul être. Gratuitement, sans rien demander en échange, sans connaître son malheur, noyé dans l'immense joie d'une présence, se contentant d'une apparition fugitive, d'un son de voix, sans jalousie, sans grief, sans exigence, sans heurts de caractère, d'idées sans rival, sans rivalité, avec pour seule peine l'absence, pour seul espoir le voir, l'entendre. Pendant 2 ans, je n'ai pas eu une seule pensée qui n'ait eu trait à Vladimir. Je ne suis jamais sortie dans la rue sans penser que je pourrais le rencontrer. Je ne vivais que par rapport à lui. C'est bien lui qui m'a tout appris de l'amour, même l'amour physique.
Porte ouverte sur l'avenir, on vogue à des années-lumière. Dans tes poèmes, tes délires, tu gueulais pour la terre entière. La neige est tombée sur le monde, étouffant les cris et les pas. Et ta voix qui n'en revient pas, je l'imagine encore qui gronde. Sur la buée de la fenêtre, je dessine la tête de Vladimir. C'est un poète qui rêvait de roses nouvelles qu'on inventerait. L'avenir n'est pas venu tout seul, le vieux monde ne dort que d'un œil. Comme le chat sur le fauteuil. Le bon Dieu et ses employés se mêlent encore de nos affaires. Nos vieilles morales ridées ravalent leurs faces de pierre. Ces machines, tu te souviens, qui promettaient la délivrance. Elles n'ont jamais changé de main, jamais ralenti la cadence. Sur la buée de la fenêtre, je dessine la tête de Vladimir. C'est un poète qui rêvait de roses nouvelles qu'on inventerait, qu'on inventerait. L'avenir est venu trop tôt, enfoncé comme un vieux chapeau. Le vieux monde nous colle à la peau. L'embonpoint nous gagne la tête et recroqueville les rêves. Ils s'en vont prendre leur retraite, on cherche le repos, la trêve. Les couvertures et les caresses, tu sais, nous sont encore comptées. Et la justice et la tendresse restent toujours à inventer. Sur la buée de la fenêtre, je dessine la tête de Vladimir. C'est un poète qui rêvait de roses nouvelles qu'on inventerait. Vladimir, petit frère, tu vois, le vieux monde pèse de tout son poids. Comme la neige sur le toit.
Voilà, nous venons d'écouter Primo Gary qui interprétait Mayakovsky Vé, poète, un texte, parole et, enfin, une chanson, paroles et musique de Michel Bernard, qui elle-même l'avait enregistré sur son premier enregistrement, donc il y a une bonne trentaine d'années d'écart entre ces deux enregistrements, Primo Gary ayant repris tout récemment dans un de ses derniers CD. Auparavant, vous aviez entendu Le nuage en pantalon, c'était dit par Yei Tushenko, avec la lecture de Jean en français, traduction en français simultanée. Auparavant encore, vous aviez entendu différentes pièces du spectacle Cabaret Mayakovsky, c'est comme ça qu'il s'appelle, de Gérard Mémone avec comme lecteur Pierre Delorme. Hommage à Mayakovsky, cabaret musical et littéraire. La dernière plage, c'était Singapour. Alors avant, vous aviez entendu Paolo et puis Montebello. Et en tout début d'émission, après donc cette lecture d'un poème de Mayakovsky par lui-même, un extrait des Anges d'Ivoire. Voilà, cette émission se termine. Merci à Jean et à Maria et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission consacrée à Elsa Triolet, puisque notre saga est loin d'être terminée. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, à bientôt. Thank you.